Voilà, c'est vrai que c'est un immense sentiment de reconnaissance de pouvoir être là ce matin, pour être présent dans cette communauté. Ce cheminement de 2 ans avec Mathias et Jordana, c'était quand même pas une aventure tout à fait simple. C'était rempli de défis pour vous, comme pour nous qui avons essayé de les accompagner avec le conseil pastoral et au-delà, au niveau de la FRE. Mais c'est vrai qu'on voit une image, là on peut mettre déjà l'image. Vincent, tu peux y aller avec le... Voilà, c'est magnifique. On voit cette image magnifique, où peut-être vous n'arrivez pas à lire de loin, mais Mathias reçoit sa licence en théologie, accompagné de Jordana, qui a aussi été bien à côté de son mari pour l'épauler. Et un immense bravo à tous les deux pour ce parcours accompli. Merci à la communauté d'avoir soutenu ce projet également dans ces derniers mois, dernière ligne droite. Il fallait laisser un peu plus de temps à Mathias pour arriver à travailler cet examen final, ces examens finaux. Et je crois que ça valait la peine. Il y a eu un fruit de tout cela. Il y a 2 ans, avec Claude Bécher, nous avions eu une célébration, on n'était pas tout à fait d'accord avec Claude sur ce qu'il fallait faire. Est-ce que c'était un culte d'installation? Est-ce que moi, je pensais plutôt pour un culte d'accueil. Alors, on n'a jamais vraiment réussi à se mettre d'accord, mais il y a une double célébration. Mais je crois que justement, ça en valait la peine parce que le parcours était semé d'embûches. Et puis, c'est bon, on est dans une société où on consomme énormément d'activités, on passe d'une activité à l'autre sans toujours avoir le temps de s'arrêter. Et je pense que c'est bon qu'on s'arrête une deuxième fois. Peut-être que c'est le temps de la double onction, de la double bénédiction, j'en sais rien. On peut l'appeler comme on veut, mais ce n'est pas du luxe. Parce que exercer un ministère aujourd'hui, comme dans d'autres professions également, ça devient très, très délicat, très défiant, plus défiant peut-être qu'il y a quelques années en arrière. Il y a 2 ans, j'ai prêché sur 1 Timothée, vous vous en souvenez tous. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais prêcher sur 2 Timothée, puisque ce sont des lettres pastorales adressées à des serviteurs de Dieu, pas à des communautés en particulier, mais à des serviteurs de Dieu. Et je pense que c'est bon d'essayer d'être à l'écoute de ces paroles. Et il y en a une qui est sur mon cœur pour vous spécialement. C'est au niveau de l'intelligence. On va voir ce texte qui est mentionné ici dans la deuxième épître à Timothée, où il lui dit à un moment donné: comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne. Et je joins tout à fait Jordana bien sûr à cette exhortation, cet encouragement, et que le Seigneur vous donne en effet de l'intelligence en toute chose. Cette notion d'intelligence que j'aimerais souligner peut-être particulièrement ce matin, c'est peut-être la chose, je pourrais arrêter ma prédication presque maintenant d'ailleurs, c'est la chose peut-être qui m'a le plus touché dans votre processus de maturation de ces 2 dernières années, parce que je pense qu'il y a eu un sacré processus de maturation. Entre les Mathias et Jordana que j'ai connus il y a 2 ans, que je connaissais déjà depuis quelques années, et puis maintenant, je pense que quel parcours, hein. Il y a eu des moments de joie, mais aussi des moments de découragement, de larmes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de défis. Alors l'intelligence, c'est bon d'y réfléchir d'un point de vue biblique. Pour nous, dans notre société occidentale, l'intelligence, c'est, on pense surtout la tête, l'aspect intellectuel de ce que cela peut concerner. Dans la Bible, l'intelligence, c'est quelque chose qui est en lien étroit avec le cœur. Alors là aussi, en Occident, quand on parle du cœur, c'est les sentiments, c'est les émotions. Dans la Bible, certes, c'est cette dimension, mais c'est beaucoup plus que cela. Le cœur, c'est le centre de la personnalité, avec toute sa dynamique relationnelle, que ce soit avec Dieu et avec les autres. Et le cœur, c'est le siège aussi de l'intelligence, de la volonté. Vous voyez, ça forme un tout. mais ce n'est pas juste une dimension intellectuelle qu'on peut séparer du reste. Et Dieu nous a donné une intelligence. Mais l'apôtre Paul dira que nous avons besoin que notre intelligence humaine, qui est un cadeau de Dieu, soit renouvelée par l'Esprit de Dieu. Et je crois que quand on est dans un ministère, service de Dieu, on a besoin de cette dimension, mais aussi au niveau d'un conseil d'église, dans la vie de tout chrétien, parce qu'on est constamment confronté quand même à des choix, des décisions qui ne sont pas toujours évidentes. Alors voilà un peu l'axe essentiel sur lequel j'aimerais partager ce matin, la notion d'intelligence. Alors, on va voir une deuxième slide maintenant. Non, ça va trop vite. Voilà. Voilà. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Alors, c'est en lien, cette notion d'intelligence, cette référence à l'intelligence que Dieu veut nous accorder, avec un passage, dans le fond, qu'on va découvrir tranquillement, étape après étape. Alors, on peut y aller, Vincent, pour le verset qui vient. Qu'est-ce que Dieu a dit d'abord à Timothée? Pourquoi est-ce qu'il en vient à parler d'intelligence? Ben, toi, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ça, c'est à la fois un cadeau d'entrer dans cette dimension et en même temps, vous en conviendrez, tout un défi justement dans une société où il y a quand même d'énormes pressions. Surtout, bon, je vois dans la situation occidentale et théoriquement, on se dit pour un pasteur, eh bien, il a de la chance, il a plein de temps pour Dieu, il aura du temps le matin pour aller se promener, pour réfléchir à la parole, l'approfondir, prendre du temps pour prier, si possible pour toute la communauté aussi, etc. Alors oui, ça c'est l'idéal. Après, il y a la réalité, hein, on reste des humains, on peut se réveiller en retard une fois, on a eu une mauvaise nuit, on peut avoir des fois un rendez-vous très tôt le matin, et puis la journée peut-être part de travers parce qu'il y a eu une mauvaise nouvelle à gérer, etc. Et théoriquement, on sait tous que c'est magnifique. J'ai bien aimé cette image de Jean-Gabriel tout à l'heure. Enfin, c'est pas toi qui l'as faite, c'est Myriam qui l'a amenée, mais ces oiseaux hein, qui sont là, comme au diapason de Dieu, qui arrivent à chanter les louanges de Dieu quelque part. C'est ce que Dieu voudrait idéalement. Mais voilà, on reste des humains avec les faiblesses de notre chair. Et puis, il y a un ennemi qui, lui, va tout faire pour essayer de nous empêcher d'entrer dans cette dimension. Et il sait que si nous pouvons passer du temps dans la prière, ça va être redoutable pour lui. Et il va tout mettre en œuvre. Il y a tellement de séductions autour de nous, tellement de pensées qui peuvent nous agiter et qui nous entraînent finalement non pas à mettre ces dimensions en priorité, mais à nous laisser embarquer dans toutes sortes d'éléments qui ne sont pas évidents. Au début de cette année, j'ai eu le privilège d'assister au séminaire de Claude Villain, c'est un pasteur belge, je crois qu'il y avait certains parmi nous qui étaient là, notamment Pierre-André et Martine, et je trouvais intéressant ce pasteur belge qui parlait de la prière du cœur, et qui, il est à la retraite maintenant, mais il disait qu'il était dans une église en Belgique où dans le cahier des charges du pasteur, expressément, il était dit qu'il devait, il y avait au moins un matin par semaine, qu'il devait prendre du temps avec Dieu et dans un cœur à cœur avec Dieu. En dehors de toute question d'organisation et de sa vie pastorale, ses engagements. Mais voilà, on t'oblige littéralement à mettre un temps, tu rayes dans ton agenda une matinée par semaine où tu te mets à l'écoute de Dieu, tu te mets à l'écart. Ce n'est pas très rentable, hein, ça, dans notre société. Et pourtant, qu'est-ce que c'est précieux. Et c'est là que je me dis, mais on a besoin de cette intelligence selon Dieu, d'être comme David, un homme selon le cœur de Dieu. Et c'est toujours un combat, ce n'est pas naturel. Enfin, Et je vous encourage à faire preuve d'intelligence dans ce domaine, et à la communauté aussi, et au conseil pastoral, oui, de laisser nos amis aussi, parce que Jordana est aussi concernée par cette dimension-là. Deuxième élément, verset 2 de ce texte de 2 Timothée 2. Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Là aussi, toute une dimension dynamique d'un ministère pastoral, dans le sens d'une part de prendre conscience, bien, on a prié tout à l'heure pour les enfants, pour les adolescents, pour la jeunesse, et puis une communauté, bien, elle est faite en principe, elle est multigénérationnelle. Aujourd'hui, on a parfois des églises qui sont surtout centrées sur un ministère pour les jeunes. Loué soit Dieu, si c'est vraiment comme ça qu'on peut mieux impacter, comme on dit, nos jeunes. Mais en général, nos communautés sont constituées de personnes de toutes les tranches d'âge. Et puis, c'est quand même magnifique de pouvoir discerner à la fois des dons, des talents, essayer de mettre en route des ministères différents, de pouvoir bénéficier de cette dynamique qu'il y a dans une communauté. Mais ça prend du temps, il faut du discernement, et là aussi il faut une intelligence pour comprendre les types de démarches qu'on peut entreprendre, essayer de discerner les temps de Dieu pour mettre quelqu'un en route, pas trop tarder, mais pas aller trop vite peut-être, pas précipiter le mouvement. Il faut de la jugeote, il faut du bon sens, il faut de l'intelligence selon Dieu. Et il y a comme une mission de perpétuation du message de l'Évangile, qui concerne pas seulement la communauté dans son témoignage local, mais aussi avec une dimension de la mission à l'extérieur, de l'évangélisation du peuple qui est en Suisse, qui habite en Suisse. Ces millions d'habitants qui sont là, dont beaucoup n'ont plus eu la possibilité d'entendre l'Évangile. Alors ce n'est pas un luxe que de réfléchir en termes d'intelligence. Et puis, la troisième dimension, sur laquelle je m'arrêterai un petit peu plus longuement, désolé, je préférerais m'en passer. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Je préférerais m'en passer pour dire, mais c'est fantastique, vous avez atteint le sommet là de votre art, vous rendez compte. Licence en théologie, vous êtes. Oh, c'est beau, maintenant vous pouvez enfin vous reposer. Après ces 2 ans de labeur, ben, vous le méritez bien. Alors c'est juste une illusion, parce que c'est vrai qu'il y a des souffrances inhérentes à notre marche chrétienne pour tout un chacun, si on est engagé avec Jésus, si on est disciple de Jésus. Et probablement que les officiers dans l'armée de Dieu sont souvent ceux qui sont les plus ciblés par l'ennemi pour essayer de les déstabiliser. Et c'est vrai que on sait très bien que dans la vie de nos communautés, comme dans la vie de nos couples, de nos familles, il y a des crises, il y a des conflits, des sentiments d'échec, il y a des divisions, des fois, douloureuses. Il y a aussi à gérer des persécutions, parfois. En Suisse, on doit surtout gérer peut-être l'indifférence qui règne et qui est aussi une forme d'épreuve. Mais aussi dans un ministère pastoral, ça concerne tous les pasteurs, bien entendu. On ne peut pas rester indifférent à la souffrance de ceux qui nous entourent dans la communauté. Et forcément, on va être souvent tenu au courant, justement, de crises dans des familles, de situations douloureuses qu'on ne peut pas toujours partager de manière publique. Et ce n'est pas toujours évident d'aller se coucher, des fois, le soir, lorsqu'on est chargé par, justement, des souffrances de famille, des difficultés qu'on connaît. Et là aussi, on a besoin d'intelligence pour savoir comment arriver à apporter au Seigneur sans porter ces fardeaux qui peuvent nous écraser. Et c'est libérateur quand enfin on comprend qu'on a un Seigneur tellement extraordinaire à qui on peut vraiment remettre cela. Mais c'est chaque fois une démarche à entreprendre qui n'est pas toujours évidente. Alors, c'est vrai, le domaine de la souffrance, il va être illustré par Paul, c'est pour ça qu'on va s'arrêter un tout petit peu plus, à travers 3 images, 3 paraboles sur lesquelles je m'arrêterai très brièvement, qui vont exprimer tellement bien cette dimension de ce qui nous attend dans un ministère pastoral et dans d'autres ministères. Ces trois paraboles vont montrer qu'il y a des notions de discipline, de travail, d'endurance, d'effort, de patience qui sont liées à cet engagement. Et là, j'ai lu une citation de Karl Barth, le fameux théologien, qui disait à ses étudiants, futurs pasteurs, « Travaillez comme si tout dépendait de vous et priez comme si tout dépendait de Dieu. » Travaillez comme si tout dépendait de vous. Au boulot, les gars. Et les filles. Mais priez comme si tout dépendait de Dieu. Alors, cette triple parabole, on va voir déjà la première, dans 2 Timothée 2, verset 4, d'abord. Image du service militaire. Après tout, Lampert a prié tout à l'heure par rapport à ce domaine du service militaire, à quelque part. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. À l'époque, les soldats de carrière devaient prendre un engagement de 20 ans. Puis on ne vivait pas forcément jusqu'à 80 ans, souvent on mourait assez vite, surtout si on était au front. Ils devaient être totalement dévoués à leur service, oublier tout ce qui était en arrière de leurs affaires civiles. Ils voyageaient beaucoup. À peine la moitié d'entre eux parvenaient jusqu'à la retraite. Alors c'est vrai que du temps de Paul, il y avait des armées qui vivaient cela, et c'était très parlant pour ses contemporains. Ça ne veut pas dire que forcément Dieu va imposer à tous ses serviteurs ce style de vie. Et on a pu, avec Mathias et Jordana et d'autres jeunes pasteurs qui se forment, vivre des semaines à Emmaüs où ils ont vu un défilé de serviteurs de Dieu qui leur ont partagé leur cheminement de foi et les joies et souffrances du ministère et comment se protéger, essayer de ne pas se laisser trop déstabiliser. Alors vous êtes normalement théoriquement équipés pour cela. Mais il n'empêche que quand on s'engage de cette manière, il y a un prix à payer. Et moi, j'aimerais commencer par toi, Jordana, pour dire que tu m'as souvent touché dans ta personnalité. C'est vrai, j'ai eu la chance d'aller au Pérou une fois, de visiter Lima, ta ville de naissance, de jeunesse, et puis d'essayer d'imaginer comment ça se fait pour toi, comment tu le vis, d'arriver ici dans la campagne vaudoise, des déménagements successifs, Aix, Saint-Serge, maintenant Aubonne, d'arriver là, et puis essayer de suivre justement les études de ton mari, là comme ça, quand vous étiez dans votre studio à Saint-Serge, une seule pièce, où ton mari devait prendre du temps pour étudier, puis toi tu étais là, essayer de trouver ton chemin, et puis voilà, ta situation de famille aussi, ta maman est à Zurich, ton beau-père aussi à Zurich, ils vont bientôt se marier, voilà, ce sera un heureux événement, mais voilà, il y a quand même aussi la solitude, il y a eu toutes sortes de défis au niveau de la santé, la résistance, et je t'ai trouvé tellement courageuse et remplie d'un amour que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et tu me touches beaucoup, simplement. Et je dis, heureuse est la communauté qui bénéficie de ton amour, justement, de ta présence. Mais ça ne se fait pas sans peine. Et tu vas encore maintenant t'engager dans un service pour te former, d'avoir un ministère aussi pastoral, toujours ici, en particulier avec les enfants, avec un mandat particulier là, et te former dans le monde, on peut dire, mais en apprenant énormément de choses dans le domaine de l'enfance comme éducatrice. Et on te souhaite vraiment de découvrir encore beaucoup de choses de la part du Seigneur qui te seront utiles aussi dans le ministère. Que là aussi, Dieu te donne l'intelligence pour savoir comment intégrer les éléments essentiels de cette formation nouvelle et d'avoir la force de la cheminée. Mathias, pour toi, c'est l'athlète qu'on va lire maintenant. Tu es un véritable athlète, toi. L'athlète, verset 5, n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Alors j'ai lu que, bon, dans le monde antique, il y avait énormément de jeux. Il y avait les jeux isthmiques, il y avait les jeux, les Olympiades également. Et les athlètes étaient soumis à toutes sortes d'abstinences. C'est aussi le cas aujourd'hui. On vient de vivre le mondial, que c'était les mondiaux d'athlétisme aussi, je crois. Ça y va. À l'époque aussi, les athlètes devaient affirmer sous serment que pendant les 10 mois avant les Jeux, ils s'étaient entraînés d'une manière assidue. Donc, lutter en respectant les règles, ça voulait dire ceci, c'est qu'on ne pouvait pas juste venir comme ça en touriste aux Jeux isthmiques ou aux Olympiades. Ce n'était pas possible. C'était une activité très, très sérieuse. Alors, pourquoi j'ai pensé à toi pour l'athlète ? D'abord, tu aimes bien le sport. Mais je me souviens, il y a 2 ans, quand j'avais parlé avec Christian Kayser, qui était le délégué, le représentant de la commission des ministères pour la région te concernant, voilà. Il avait du souci par rapport à ce projet. Il me disait, mais je ne crois pas que Mathias réalise, et peut-être la communauté non plus, qu'est-ce que ça signifie d'avoir un ministère pastoral à 80% et de finaliser cette dernière année de formation à Aix pour avoir cette licence en théologie. Une année sur 2 ans, alors c'est réparti un peu différemment, mais voilà. Et en même temps, j'ai envie de te dire, il y a eu toutes sortes d'abstinences aussi pendant ces 10 mois. Et puis maintenant, tu vas commencer, il y a la compétition. Tu es d'ailleurs content, tu m'as dit, enfin, je vais pouvoir donner plein pot. Je peux passer à 100%, je peux me donner à fond. Il n'y a plus de ces questions d'études qui vont me traîner un peu à la patte comme un boulet. Alors oui, mais dans cette nouvelle étape, là aussi, tu as besoin d'intelligence pour discerner. Tu as des forces, tu es jeune, mais tu as aussi des limites dans tes forces. Là aussi, il faut discerner intelligemment aussi avec ton conseil, les priorités absolues, etc. Il y a besoin de sagesse, il y a besoin de foi, mais le Seigneur t'accordera tout cela. Enfin, l'image du cultivateur. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Alors, moi, j'aime bien cette image des fruits, parce que dans le fond, oui, il y a de la souffrance, il y a des efforts à poursuivre, mais il y a des combats, mais c'est avec l'aide de Dieu, véritablement. On n'est pas tout seul. Et puis, dans les ressources qu'il nous donne, dans la grâce que Dieu met à nos dispositions, vous avez un conseil pastoral, j'ai l'impression que vous vivez bien, l'unité dans ce conseil pastoral, que vous avez de la joie de vous retrouver. J'espère que je ne me trompe pas, mais c'est l'impression que j'ai. Et dans les visites que j'ai effectuées à ce conseil pastoral pendant ces 2 ans, j'ai vu qu'il y avait vraiment quelque chose de beau qui se vivait. Alors moi, j'en suis réjoui pour toi, pour vous. Puis il y a d'autres ressources au niveau de la régionale, de la FRAE, qui sont nécessaires pour pouvoir porter ce fruit. Quant aux cultivateurs, alors j'ai envie de te dire, je crois qu'il reste quelques cultivateurs à l'avenir. Il y en a combien de cultivateurs encore parmi nous ? Même à la retraite, levez voir la main. Oh, il y en a quand même 5 ou 6, 7, ça va. Visitez-les. Puis vous leur demandez comment est-ce qu'ils peuvent vous expliquer cette parabole ? Qu'est-ce qu'ils en ont compris pour eux dans leur métier ? Les parallèles qu'ils peuvent en faire avec leur vie de foi ? Et puis c'est génial parce que tu vas découvrir des personnes, des frères, des sœurs, qui ont beaucoup d'expérience, qui vont te donner même des idées pour 2 ou 3 messages consécutifs rien que sur cette parabole. Alors c'est une manière intelligente de bénéficier comme ça de l'aide de Dieu pour des prédications, tu vois. C'est magnifique. Maintenant, si vraiment il y a un de ces cultivateurs qui spontanément voulait se lever tout de suite pour dire « Ah ben, okay, il y a une chose, Mathias et Jordana, que j'aimerais vous dire quand on est cultivateur, etc. » Alors oui, avec les temps de sécheresse qu'il y a eu, etc., il y a certainement des leçons. Mais peut-être tout à l'heure, après le repas ou pendant le repas, ils pourront s'approcher de toi ou même vous donner déjà une invitation pour dire venez me trouver, j'ai des choses à vous partager. Allez. Alors je conclue. Une dernière image. où on revient sur ce verset principal, verset 7. Comprends ce que je dis et que le Seigneur te donne ou vous donne en effet de l'intelligence en toutes choses. Et on va lire les versets 8 à 10 très brièvement. Alors, l'intelligence, ça concerne aussi cette dimension. Mais souviens-toi de Jésus, le Messie ressuscité, issu de la descendance de David, conformément à l'évangile que je prêche et pour lequel je souffre au point d'être enchaîné comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas enchaînée. C'est pourquoi je supporte tout à cause de ceux qui ont été choisis, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Moi, j'aime beaucoup ce verset qui parle du salut en Jésus-Christ et la gloire éternelle. Parce que finalement, l'athlète, au 1er siècle, il recevait une couronne de laurier ou de persil. Enfin, c'était quelque chose d'assez éphémère. Et même Federer, avec ses 250 000 coupes qu'il a dans sa vitrine, ou je ne sais pas, mais tout ça, ça va passer. Mais ce que le Seigneur tient en réserve pour nous, là, ce n'est pas seulement le salut, l'assurance de la vie éternelle, c'est cette dimension de la gloire éternelle. C'est juste quelque chose d'inouï. Hein, ce n'est pas une fuite en avant, mais c'est au niveau de la motivation, je pense que c'est quand même extraordinaire. Hein, c'est beau. Et puis, versets 11 à 13, que le Seigneur puisse aussi parler à travers cette parole qui est certaine. Si nous sommes morts avec lui, avec Jésus, donc, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Oh, quelle gloire magnifique! Si nous le renions, lui aussi nous reniera. C'est vrai qu'il peut y avoir des défaillances temporaires, tellement on est découragé, comme Pierre l'a été à un moment donné, mais voilà, le Seigneur nous tend toujours des perches pour qu'on puisse continuer la route avec lui. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alors que dans toutes ces dimensions-là, les richesses de ces textes, l'intelligence vous soit accordée pour comprendre les temps et les moments. Amen.